Mon organisation, l'OMEP, Organisation mondiale pour l'éducation préscolaire, est une ONG qui a été fondée en 1948 au bénéfice des enfants de 0 à 8 ans. Cette ONG coopère avec l'UNESCO et l'UNICEF et depuis 2015, elle est très engagée au niveau du nouvel agenda mondial pour l'éducation 2030 pour développer l'objectif de développement durable 4, numéro 4, qui concerne essentiellement l'éducation. C'est le cadre qui va servir à développer dans le monde l'ensemble des politiques éducatives qui sont en fait des recommandations de l'ONU. Et donc, les gouvernements sont censés en prendre compte pour mettre en place leur politique éducative. L'OMEP est présente dans 70 pays dans le monde. Elle est intéressée par tous les aspects qui concernent l'éducation et les soins apportés aux jeunes enfants. Elle est là aussi pour encourager l'étude, la recherche reliée à l'éducation préscolaire. Elle organise des conférences et des symposiums chaque année au niveau international et régional. Elle diffuse l'information sur l'éducation préscolaire par l'intermédiaire d'une publication, la Revue internationale de l'enfance préscolaire. Elle encourage la formation du personnel en éducation préscolaire. L'éducation familiale aussi en relation avec l'éducation du jeune enfant. Et l'OMEP a ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant. Toute personne et toute institution qui s'intéresse à la petite enfance peut adhérer à l'OMEP. Alors, l'éducation préscolaire s'adresse aux enfants de 0 à 8 ans, donc elle inclut tous les modes de garde avant l'école maternelle, donc c'est très variable suivant les pays, les modes de garde, l'école maternelle, et selon l'âge de la scolarité obligatoire dans le monde, dans les pays, ça peut être 6 ans, 7 ans, voire 8 ans. L'obligation de scolarité. C'est plus large que l'école maternelle française. L'OMEP a actuellement des grands projets qu'elle mène dans les 70 pays qui adhèrent à l'OMEP. Ces projets tournent autour des thématiques de l'éducation développement durable, notamment l'accès à l'eau pour tous en Afrique, autour d'un projet qu'elle mène en partenariat avec l'UNICEF qui s'appelle Wash from the Start, c'est-à-dire qui concerne l'hygiène et la santé en lien avec l'eau. Elle a un nouveau projet qui est autour de jeux et résilience. Et puis, elle participe à différentes journées mondiales telles que la journée de la paix, la journée des enseignants, la journée des migrants et jeunes déplacés, etc. En ce qui concerne l'OMEP France, parce que l'OMEP mondial a des comités donc dans ces 70 pays, l'OMEP France, elle, a pour mission, on va dire, l'accueil de délégations étrangères, notamment, par exemple, la Pologne, le Japon, le Canada, l'Argentine, la Chine. On a reçu des délégations de ces pays qui viennent pour s'informer sur notre système éducatif et en particulier donc la maternelle française. On y reviendra. L'OMEP France aussi a un rôle de conseil auprès de toutes les structures de la petite enfance et aussi de l'école maternelle, donc avec, par exemple, l'organisation de classes passerelles. Une classe passerelle, c'est une classe qui fait le lien entre la structure petite enfance de type halte-garderie ou crèche avec l'école maternelle, avec des intervenants des deux structures et des horaires assez larges, de façon à ce que les jeunes, très jeunes enfants puissent s'habituer à ces changements. Et aussi, il y a un accompagnement des familles qui est très important. Il y a d'autres dispositifs comme des groupes de parole, des ateliers auprès d'autres associations. Il y a aussi un travail mené autour de l'éducation et développement durable, notamment avec l'intergénérationnel. Et puis, on fait aussi des conférences et des présentations autour de la petite enfance et l'école maternelle. L'UNESCO, dont nous sommes partenaire consultatif, comme je vous l'avais précisé au début de l'entretien, a proposé, d'ailleurs l'ONU et pas l'UNESCO, a proposé un agenda pour l'éducation jusqu'en 2030, qui est composé de 17 objectifs de développement durable. C'est 17 ODD, dont l'objectif 4 concerne l'éducation. Bon, les trois grands buts principaux de ce plan d'action, qui est sur 15 ans, 2015-2030, sont les suivants. La lutte contre les inégalités au niveau mondial, la mise en place de mesures concrètes pour lutter contre le dérèglement climatique, la recherche de solutions pour mettre fin à l'extrême pauvreté. L'ODD 4 vise à assurer une éducation inclusive et équitable de qualité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous. Les cibles et les objectifs mondiaux visent à stimuler l'action au cours des 15 prochaines années dans les 5 P d'importance primordiale: population, planète, prospérité, paix et partenariat. L'éducation est également incluse dans les objectifs sur la santé, la croissance, l'emploi, la consommation et la production durable et le changement climatique. La déclaration d'Incheon, qui a été faite il y a 2 ans, confie à l'UNESCO un rôle de chef de file coordonnateur sur l'éducation pour la coordination globale de tous ces ODD. Et c'est la première fois qu'il a été mentionné dans cette déclaration qu'il serait nécessaire d'avoir une année d'éducation préscolaire avant la scolarité obligatoire dans tous les pays. Maintenant, ce sont des recommandations. Les gouvernements doivent s'en emparer pour mettre en place des politiques et un système qui n'existe pas forcément d'éducation préscolaire gratuite pour tous, ce qui est une grande ambition. Et donc il y a un cadre qui fixe tout qui explique comment on peut traduire tous ces engagements au niveau national, régional et mondial. Cette déclaration est en ligne sur le site de l'UNESCO et vous trouvez tous les 17 objectifs, les 17 ODD sont tout à fait explicités, avec notamment ce qui vient de sortir proposé par l'UNESCO et l'ONU. Chaque ODD est accompagné de recommandations au niveau de l'éducation. Et pratiquement tout passe par l'éducation. L'éducation, la scolarisation des enfants progresse dans le monde actuellement. Plus de 60 millions d'enfants en âge de fréquenter l'école primaire ne sont toujours pas scolarisés dans le monde en 2015, mais la scolarisation progresse, mais de façon inégale. 1,6 million d'enfants n'ont pas intégré l'école primaire en Amérique du Nord et en Europe occidentale, mais ils sont 32 millions, plus de 32 millions dans ce cas en Afrique subsaharienne. Et le taux de scolarisation est passé de 84 à 90% en primaire et de 85 à 65% dans le secondaire. La scolarisation dans le primaire reste quand même faible en Afrique. Mais il y a quand même une hausse depuis 2000. Les États arabes aussi sont classés dans les pays où il y a moins d'enfants scolarisés. Bon. Et par contre, dans les pays développés, presque 100% d'enfants sont scolarisés. Les modes d'accueil de la petite enfance sont variés dans le monde. En ce qui concerne les structures d'accueil des très jeunes enfants en Europe, de 0 à 3 ans ou de 0 à 6 ans, ça dépend des pays. En Europe, il y a deux grands modèles de structures pour cet accueil. soit il est organisé d'une manière intégrée, c'est-à-dire qu'il y a une structure unique pour les enfants, pour tous les enfants d'âge préscolaire. Chaque établissement a une seule direction et, pour les enfants de tous les groupes d'âge. Et les adultes responsables de l'organisation des activités éducatives ont en général les mêmes qualifications et les mêmes barèmes, quel que soit l'âge des enfants dont ils s'occupent. Ces enseignants ou pédagogues sont souvent accompagnés par d'autres catégories professionnelles de la petite enfance, comme des puéricultrices, des orthophonistes, etc. Ça, c'est un mode d'accueil. Et puis, il y a un autre mode, c'est-à-dire que ces services sont organisés en deux structures distinctes qui sont séparées en fonction de l'âge des enfants. Classiquement, donc, de 0 à 3 ans d'une part et de 3 à 6 ans d'autre part. C'est ce modèle-là qui est le plus répandu en Europe. Dans quelques pays, on a les deux structures conjointes qui cohabitent. Dans le monde, dans les pays du monde, très souvent, ces structures d'accueil soit n'existent pas, soit sont développées, mais sont du domaine privé. Alors, en Espagne, on a deux formes. Une forme d'accueil qui est un service public de la petite enfance et qui est divisé en deux cycles. Un premier cycle pour les enfants de 1 à 3 ans et un second cycle pour les enfants de 3 à 6 ans. La présence n'est pas obligatoire et elle est gratuite dans les centres pour de nombreuses zones. Mais il existe aussi beaucoup de maternelles privées qui accueillent généralement de 2 à 6 ans. Je pense que ce sont plutôt elles ont encore le style de garderie plutôt que d'école. Ça, on pourra comparer avec l'école maternelle française ou les structures d'accueil plus généralement en France. Voilà. Et en fait, en Espagne, ces écoles maternelles privées représentent un moyen pour les parents de faire garder leurs enfants quand ils n'ont pas beaucoup de revenus. Et par contre, les meilleures écoles de la petite enfance sont réservées à des populations qui sont plus favorisées. Il y a aussi, pendant la dernière année d'école maternelle, quelques rudiments pour commencer à préparer à l'entrée à l'école élémentaire, c'est-à-dire au niveau de l'écriture, la lecture et le calcul. Il y a aussi un projet qui vise à enseigner l'anglais à partir de 3 ou 4 ans dans les écoles publiques en Espagne. Il y a eu des études de fait, alors, notamment dans les études de PISA, qui montrent que les enfants qui ont été scolarisés en maternelle en tirent bénéfice jusque, notamment à l'âge de 15 ans, quand on fait les nouvelles évaluations au niveau de la lecture et des apprentissages en général. La scolarisation en maternelle favorise une meilleure intégration dans la scolarité ultérieure. Souvent, les structures d'accueil de petite enfance, c'est-à-dire crèches, haltes-garderies, etc., sont rattachées au ministère de la Santé et souvent des Affaires sociales, hein, comme c'est le cas en France, et l'école maternelle, par contre, est rattachée au ministère de l'Éducation nationale. Je pense que c'est assez courant dans le monde, ça, quand les structures existent. Il y a cette séparation qui fait que si on veut établir des liens entre les deux structures, ça nécessite vraiment des concertations, des temps de concertation, de la communication entre tous les intervenants, parce qu'ils n'ont pas forcément, je dirais, la même culture, les mêmes habitudes, les mêmes règles de vie, le même mode de fonctionnement. Donc, il faut apprendre à se connaître pour pouvoir, après, établir des projets en commun. Voilà, c'est intéressant, par exemple, alors je pense à une expérience qui a été menée en France, de faire des formations communes entre les enseignants de maternelle et les éducateurs de crèche, par exemple. voire d'autres personnels comme les ATSEM, les agents territoriaux et municipaux qui interviennent dans les écoles maternelles, de façon à mettre en commun les deux cultures, au bénéfice bien sûr des enfants toujours. Après, la caisse d'allocation familiale en France, les structures d'accueil des enfants de moins de 3 ans progressent. Et donc, il y a différents modes d'accueil pour les moins de 6 ans, soit par une assistance maternelle directement salariée par les parents, ou par un établissement d'accueil collectif, ou par un service d'accueil familial. Les enfants âgés de 2 ans ou plus peuvent également fréquenter un établissement scolaire. La garde à domicile par un intervenant rémunéré est également une solution possible. Elle est moins couramment utilisée. Les structures d'accueil collectif, c'est-à-dire les crèches, pratiquant multi-accueil, les jardins d'enfants, les haltes garderies, représentent 83% de la totalité des places offertes. En milieu d'accueil familial, 12%, et les micro-crèches et accueil parental, 5%. Ces structures sont quand même en augmentation, mais le nombre de places en accueil individuel augmente quand même, et de garde à domicile aussi. En baisse, les enfants de moins de 3 ans sont plus souvent gardés par leurs parents. Et on a actuellement une légère diminution aussi de la scolarité des enfants âgés de 2 ans. Les structures d'accueil de la petite enfance dépendent du ministère des Solidarités et de la Santé. Et on a identifié 3 métiers, par exemple dans les crèches, donc la directrice avec éventuellement une adjointe, une intervenante auprès des enfants qui est soit une assistante petite enfance, un agent de crèche, une auxiliaire de périculture, et puis l'éducatrice de jeunes enfants. En ce qui concerne le ratio enfant-adulte, un professionnel pour 5 enfants ne marchant pas et un pour 8 enfants qui marchent. Donc, on voit quand même bien la différence avec l'école maternelle aussi. En général, la mission de ces structures est plutôt une mission un peu sanitaire et un petit peu éducative. Mais c'est plutôt garderie comme à l'école maternelle, où c'est une école. Ces enfants qui ont fréquenté les structures d'accueil petite enfance, évidemment, sont déjà imprégnés d'une vie sociale et puis d'un rapport avec un adulte différent de la famille qui facilite l'entrée, bien évidemment, à l'école maternelle. Même si ça reste quand même un passage qu'il faut accompagner, cette entrée à l'école maternelle. Parce que accompagner les enfants comme les parents. Le nombre d'enfants est beaucoup plus important dans une classe de maternelle, 20, 25, voire 30, que dans les crèches ou haltes garderies. Et puis, je dirais l'école maternelle est quand même une école. Donc, ça suppose qu'il y a des programmes, des structures, des apprentissages progressifs. C'est quand même beaucoup plus contraignant. L'école maternelle, mais même l'accueil des jeunes enfants dans le monde entier, c'est sûr. Parce que c'est un facteur d'égalité des chances, d'abord, et puis développer les apprentissages, que les enfants restent à l'école plus longtemps aussi. Tout ça pour être le citoyen de demain qui puisse intervenir, être responsable et conscient de ce qu'il va prendre comme décision, qu'il va pouvoir aussi se former tout au long de sa vie, et ça, c'est extrêmement important.